Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, au Royaume-Uni, les salariés du rail sont en grève, ce jeudi donc encore.
Oui, à l'appel du syndicat des chemins de fer qui prévenait dimanche dernier d'une semaine dantesque dans les transports. La grève a commencé mardi, mais c'est aujourd'hui surtout que les cheminots doivent montrer s'ils ont foi ou non dans ce mouvement social pour une revalorisation des salaires qui tiennent compte de l'inflation et pour éviter une vague de licenciements qui se préparerait dans les compagnies ferroviaires privées. Bonjour John Mullen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire britannique à l'université de Rouen-Normandie et spécialiste des mouvements syndicaux au Royaume-Uni. John Mullen, quelle importance donner d'ores et déjà à ce mouvement de grève? Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il a été suivi mardi puis hier? Le syndicat du rail RMT, est-ce qu'il a réussi son pari qui était de provoquer le plus gros conflit sectoriel depuis 1989, je le cite?
Oui, donc en fait c'était trois jours, c'est mardi, jeudi et samedi. Donc hier il y avait pas de grève. C'est un événement très important. Ça pourrait être le début d'une vague de grève dans un pays qui a vu depuis 20 ans extrêmement peu de conflits sociaux ouverts. Alors pour vous donner une idée, depuis 10 ans en moyenne chaque année, 26 000 de journées de grève au Royaume-Uni. C'est-à-dire que ce nombre par an, c'est 100 fois moins que le nombre de grèves en France en 2019. Bien sûr, 2019, c'était une année de grande contestation, mais quand même 100 fois moins, c'est-à-dire qu'il y a eu très très peu de grèves, et là ça va avancer. Alors il y a un contexte, alors bien sûr le contexte de l'inflation, là ça dépasse, c'est difficile à calculer exactement, mais ça s'approche au 10%. C'est aussi un contexte où le chômage est très bas en Angleterre, et donc les gens, ils ont moins peur de faire grève. Et puis aussi dans un contexte de crise politique de Boris Johnson pour d'autres raisons par rapport à sa condamnation pour fait illégal pendant la pandémie. Voilà, et tout dernier élément de contexte, la semaine dernière, Boris Johnson a annoncé qu'il voulait mettre fin aux limites sur les primes des chefs des grandes entreprises, des primes qui parfois comptent dans les millions de livres. Donc voilà, et après, oui, ça a été suivi, il y avait un train sur cinq qui roulait. Il faut dire que ça ne comprend pas seulement les conducteurs de train, mais aussi les gens qui travaillent dans la voiture, bar, ou les contrôleurs, les guichetiers.
Donc tous les cheminots au sens large. John Mullen, quand le syndicat du rail RMT parle de provoquer le plus gros conflit sectoriel depuis 1989, il fait allusion à cette grève de 89 qui n'avait pourtant pas réussi à empêcher la privatisation de 1994, 5 ans plus tard donc sous Margaret Thatcher, en avance d'ailleurs sur le reste de l'Europe qui libéralisait le rail à partir de 2003. Mais la Commission européenne avait fait part de cette aspiration dès le début des années 90. Donc le Royaume-Uni était très en avance. Est-ce que cette libéralisation avait changé quelque chose pour les cheminots britanniques en termes de statut? Est-ce que la question du statut est aussi à l'ordre du jour pour ce mouvement de grève? Le statut, les salaires, vraiment les conditions de travail des cheminots en particulier?
Alors bon, le Royaume-Uni était en avance ou a reculé plus vite que le reste de l'Europe, c'est selon on regarde, c'est selon son opinion sur la situation. Oui, alors en 1994, c'était déjà John Major, Margaret Thatcher avait été limogé par ses ministres. Effectivement, ils sont allés beaucoup plus loin en Angleterre parce que ce n'est pas simplement une libéralisation du chemin de fer, mais carrément une privatisation où on gardait un certain contrôle public. Je pourrais vous donner les détails. On gardait un certain contrôle public. Par exemple, le réseau, les rails même sont la propriété de l'État, mais on demandait aux entreprises privées de gérer les lignes particulières. Alors pour les cheminots, ils ont un statut de salarié et de droit privé, hein, comme tous les autres. Alors il y a eu beaucoup de... les conditions de travail étaient beaucoup moins bien. Je ne sais pas si ça a été un peu oublié, le film de Ken Loach, Les Navigateurs, qui parlait des salariés des entreprises qui intervenaient dans la réparation des rails. Et c'était beaucoup de petites entreprises privé et parfois le contrôle était assez moyen. D'ailleurs, il y a eu un grand accident qui a fait un peu figure de symbole sur les problèmes de la privatisation. Bien sûr, la privatisation, c'est une question politique. Donc, il y a les gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée de privatiser parce que l'entreprise privée, c'est mieux. Mais il faut dire que sur ce débat privatisation, le chemin de fer, c'est l'exemple que ceux qui défendent l'industrie nationalisée sortent toujours parce que c'est celui qui a clairement le moins bien marché. Là où, par exemple, les télécoms, il y a du débat. Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça n'a pas marché? Trouver des gens ordinaires en Angleterre qui trouvent que la privatisation du chemin de fer a été un succès. Oh là là, je vous souhaite bon courage pour les trouver.
Et oui, alors parmi les succès évoqués, il y a le fait qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui prend le train. Mais bon, les prix des billets ont beaucoup augmenté par ailleurs. Parmi les accidents que vous citiez, John Mullen, qui ont convaincu les autorités que la privatisation, ça ne marchait pas pour le rail, il y a celui de Londres en 1999, quand deux convois de banlieue des compagnies Great Western et Thames sont entrés en collision à l'heure de pointe, 3 km à l'ouest de la gare de Paddington. Ça avait fait 26 morts et 150 blessés. Il y a un an, Boris Johnson annonçait la création d'une entreprise publique, Great British Railways, qui signe des contrats de sous-traitance avec des entreprises privées et lesquelles assurent le service, comme vous le disiez. Est-ce que d'ores et déjà, ça a changé quelque chose? C'est une sorte de renationalisation qui ne dit pas son nom?
Pas vraiment. C'est-à-dire que la situation là depuis 96, je crois, c'était qu'il y avait l'entreprise nationale qui est propriétaire du réseau et qui organise des ventes à l'enchère, hein, en fait, aux enchères des franchises pour telle ou telle ligne. Et alors ça va rester en place, mais la nouvelle initiative de Boris Johnson, Great British Railways, parce qu'il faut rajouter Great au début, c'est une recentralisation. Ce n'est pas une renationalisation, c'est une recentralisation. Alors, bon, bien sûr, le débat continue. Il y a des gens qui voudraient la renationalisation. Évidemment, ce n'est pas dans les priorités de Boris Johnson.
Et notamment, en 2002, déjà, les voies ferrées étaient repassées sous le contrôle de l'État. Un livre blanc avait été publié il y a quelque temps qui a précédé cette réforme dont on vient de parler et qui racontait les batailles juridiques kafkaïennes qui pouvaient s'engager entre les compagnies privées et la compagnie publique de chemin de fer en cas de retard. Et un exemple que je voulais juste citer, parce que c'est le ministre Grandschaps qui l'a raconté, le ministre des Transports, qui disait que quand un faisan avait provoqué un jour tout un retard de train, juridiquement, il fallait définir si le faisan était un petit oiseau, auquel cas la responsabilité allait à l'opérateur du train, ou un grand oiseau, auquel cas elle allait à la compagnie publique de chemin de fer.
La grève du rail au Royaume-Uni, quelle est la force de frappe des syndicats britanniques? L'invité des enjeux internationaux est le professeur britannique à l'université de Rouen, John Mullen.
Alors John Mullen, toutes ces questions, la question de la réforme du rail, apparaissent en filigrane dans le mouvement de grève de ces jours, mais qui concerne avant tout, on le disait, la question des salaires et des conditions de travail. Quel est le poids aujourd'hui de ce syndicat du ferroviaire, RMT?
C'est-à-dire que c'est un des syndicats qui a le plus augmenté de taille depuis 10-15 ans. C'est aussi un des syndicats les plus militants, hein, je veux dire, dans toute proportion gardée. Et alors là, ils semblent avoir réussi son pari. Là, un sondage a dit que 58% de la population trouve que la grève est justifiée, 34% trouve que c'est pas justifié. Mais à la limite, le chiffre encore plus intéressant, c'est 44% des gens qui ont voté conservateur en 2019 trouvent que c'était justifié. En fait, si vous voulez, avec le retour de l'inflation, tout le monde, quelque part, voudrait une augmentation salariale. Et le gouvernement est un peu reconnu la nécessité parce qu'il vient d'annoncer que la pension de retraite, qui est assez bas, il faut le dire, va être augmentée strictement en proportion avec l'inflation. Et alors, bon voilà, donc l'idée que c'est justifié, ça a un certain poids dans le pays. Les journaux de conservateurs sont plutôt en panique. The Sun, le plus vendu des journaux conservateurs, titre en première page, la guerre des classes. Et le seul journal de gauche qui vend plus d'un million en Angleterre, titre en première page son soutien à la grève avec une liste des salaires des chefs des entreprises du rail que pour dire que c'est 30 fois plus que le salaire moyen ou 40 fois plus que le salaire moyen. En fait, les critiques de la privatisation disent qu'en fait, c'est privatiser les profits et nationaliser les pertes parce que, comme vous l'avez dit, quand une des entreprises commence à perdre de l'argent, il est temporairement renationalisé. Ça a été le cas à plusieurs reprises. Il y a 5 ou 6 qui ont été renationalisés pendant 2 ans, le temps de retrouver un autre repreneur privé. Mais privé ou pas tout à fait, parce qu'en fait, une partie significative des entreprises privées de rail en Angleterre, en fait, sont la propriété des autres industries nationalisées. Alors, il y a Arriva, c'est... alors, est-ce que je l'ai dit dans le bon sens? Oui, Arriva, c'est Deutsche Bahn. Et Avanti, qui fait la côte ouest, c'est Trenitalia. Bon, et alors il y a des Anglais qui se disent, mais je croyais qu'on était contre la nationalisation, il faudrait se décider.
John Mullen, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il y a un nom de syndicaliste dont les journaux britanniques sont désormais remplis. On fait son portrait, on l'invite pour des entretiens et des débats. Il s'appelle Mick Lynch. Qui est-il et surtout, est-ce qu'il peut provoquer une grève générale qui semble être l'objectif aussi de cette grève de cheminots?
Je pense qu'on est très, très loin d'une grève générale. Là, c'est la première grande grève depuis bien longtemps. Alors, il est vrai que les enseignants, notamment, et les infirmiers trouvent que ça suffit et que là ils sont en train de voter pour faire une grève ou non. Il faut dire qu'en Angleterre, il y a des lois très, très restrictives. Toute une série de grèves ne sont pas légales. Et si on veut organiser une grève, il faut un long préavis. Il faut un vote uniquement par voie postale, interdit de décider dans des assemblées générales où souvent les syndiqués se sentent plus en confiance. Et alors, il y a une restriction qui a été assez réussie du point de vue du gouvernement pour limiter la possibilité de grève. Mais là, je pense qu'il va y avoir davantage. Mais non, je ne prédis absolument pas une grève générale dans la période présente.
Et Mick Lynch, alors, en deux mots, qui est-il?
Lynch, alors, il est devenu un peu un héros populaire parce qu'il descend des journalistes de droite d'une façon avec un humour bien britannique et on se moque en deux à cause de leur manque de connaissances sur le mouvement syndical, parfois justifié. Voilà. Et donc, il y a plein de petits mots qu'il a sortis. Il aime bien répéter celui de son prédécesseur où il dit « Alors, si une grève de 2 jours, ça coûte 100 millions de livres au pays, ça veut dire que mes membres, ça vaut 100 millions de livres s'ils travaillent 2 jours. » Voilà, c'est un exemple de ce qu'il aime répéter. Celui-là, ce n'est pas de lui, hein, c'est de son prédécesseur.
Merci beaucoup, John Mullen, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire britannique à l'université de Rouen-Normandie. Merci.
Merci, les enjeux. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.